Sounou Assurance vous propose Priorité Santé et vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On peut se demander parfois à quoi servent vraiment les journées mondiales. Parce qu'elles sont très nombreuses et que certaines d'entre elles portent sur des thématiques parfois inattendues, voire farfelues. Des journées pour sensibiliser et mobiliser. Mais là encore, certains enjeux sont tellement ambitieux que l'on peut se demander comment, à titre personnel, à notre échelle, on peut agir. Et précisément aujourd'hui, en cette journée mondiale des donneurs de sang, tout dépend d'une démarche individuelle, bénévole, solidaire. Séance de prélèvement après séance, les établissements du sang accumulent le plus précieux des trésors, une ressource impossible à fabriquer, un don vital. Alors les arguments sont évidemment frappants. Avec un don de sang, on peut sauver 3 vies. À l'échelle d'un pays comme la France, 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don du sang. Et pour faire face aux besoins, il faut chaque jour 10 000 dons, dons du sang, de plasma, de plaquettes. Chaque année, surtout dans un contexte sensible sur le plan sanitaire, il faut expliquer, communiquer, sensibiliser. Cette journée mondiale permet également de prendre la mesure des besoins que peuvent connaître d'autres régions du monde où la collecte et la transfusion sanguine s'organisent différemment. Journée mondiale des donneurs de sang, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et vous nous direz au cours de cette émission qu'on peut donner son sang même lorsque l'on vient d'être vacciné contre la Covid-19. Docteur France Pirenne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale de l'établissement français du sang de l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne, directrice médicale de l'établissement français du sang en Île-de-France, également professeure d'hématologie et transfusion à l'université Paris-Est, Créteil, toujours à Créteil, beaucoup de responsabilités. Vous êtes par ailleurs responsable de l'équipe INSERM U955. Comment ce don du sang s'organise dans un pays comme le Burkina Faso? C'est ce qu'on verra tout à l'heure en compagnie du docteur Yacouba Nébié, médecin hémobiologiste, spécialiste de médecine transfusionnelle au Centre national de transfusion sanguine de Ouagadougou, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Et c'était hier la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'occasion de revenir sur cette question très importante de la prévention des cancers de la peau pour les personnes concernées par cette maladie génétique. Une formule de crème solaire particulièrement adaptée au contexte africain vient d'être mise à disposition gratuitement donc par la Fondation Pierre Fabre. On va en parler en fin d'émission avec Lala Aïcha Diakité qui préside l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali.
Priorité santé sur RFI.
Nous n'avons pas les mêmes vies, ni les mêmes passions, mais nous partageons bien plus. Nous sommes ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Nous sommes ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire. Ceux pour qui un coton au creux du bras vaut tous les galons du monde. En relevant nos manches, 2 à 3 fois par an, nous participons à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire, les joueurs collectifs, les optimistes nés. Nous sommes les donneurs de sang.
Du 9 juin au 9 juillet, un mois pour tous donner.
Campagne de mobilisation 2021 de l'établissement français du sang, la voix du chanteur Ben Mazuet. Professeur France Pirenne, est-ce que cette année, la mobilisation pour le don du sang, c'est plus difficile que les autres années?
C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que nous avons tous vécu cette crise sanitaire et maintenant que nous sommes à une période de, disons, déconfinement, chacun retrouve sa liberté et la priorité n'est pas toujours malheureusement d'aller donner son sang. Donc c'est vrai qu'il faut à nouveau insister pour que nos donneurs viennent à nouveau donner leur sang en fait.
Est-ce qu'il y a une sorte de calendrier, c'est-à-dire des moments de tension particulière au cours de l'année?
Oui, alors il y a toujours tous les ans, des moments de tension et notamment au niveau des ponts, par exemple, du mois de mai. Alors c'est vrai que ce mois-ci, les ponts c'était souvent un samedi, les jours fériés, mais autrement, pendant les vacances, au mois d'août, etc., il y a souvent des tensions aux périodes où les gens se retrouvent en famille.
Alors on va parler des différents produits sanguins, la compatibilité sanguine, c'est aussi très important, mais pour rester dans un premier temps sur ce plan très concret de la ressource, on va dire, l'approche quantitative, où en sont aujourd'hui les réserves de sang en France? France, professeur Pirenne?
Écoutez, les réserves à ce jour sont quand même tendues. Bien sûr, on a toujours ce qu'il faut pour transfuser les patients. Il ne s'agit pas de dire qu'on est en pénurie, on s'est juste tendu. Et donc, il est important de remobiliser l'ensemble des donneurs pour que les réserves reprennent des taux qui nous permettent d'être confortables pour transfuser l'ensemble des patients.
Retrouver une forme de sérénité.
Sérénité.
Il faut du sang et des donneurs d'origine ethnique variée. C'est une question qui nous tient particulièrement à cœur dans cette émission parce que très souvent, avec les auditeurs, on parle d'une maladie que beaucoup d'entre eux connaissent bien. Il s'agit notamment de la drépanocytose. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut des donneurs qui viennent d'Asie, de la Caraïbe, d'Afrique, de France, d'Europe, de partout? Qu'est-ce que ça change au niveau de la qualité de ce qu'il y a dans notre sang à chacun, à chacune?
Alors, c'est pas tant la qualité, en fait, parce que tout sang a la même qualité, il transporte l'oxygène de la même manière. Ce qui différencie donc les globules rouges en fonction des populations, c'est l'expression des groupes sanguins à leur surface. Or, le grand principe quand on transfuse, c'est d'être compatible, c'est-à-dire d'avoir des groupes sanguins, pour dire les choses simplement, à peu près identiques entre le donneur et le receveur. Et si on n'a pas, si on n'atteint pas cette compatibilité, eh bien, il y a des risques pour le patient qui est transfusé de réagir contre le sang qu'on va lui transfuser en produisant ce que l'on appelle des anticorps. Alors maintenant, avec la Covid, tout le monde sait ce que c'est des anticorps, mais là, les anticorps, ils ont un effet néfaste.
Est-ce qu'on pourrait comparer ça avec un rejet de greffe d'organes?
Exactement.
On rejette un élément extérieur.
Voilà, on va le rejeter et ça peut être des accidents vraiment très graves. Donc, pour vous donner l'exemple, par exemple, d'une catégorie de patients qui sont les patients drépanocytaires, qui sont pour une bonne partie d'origine Afrique subsaharienne, eh bien, ces patients, pour les transfuser en toute sécurité, on a vraiment besoin de dons de sang de personnes de même origine.
Donc, c'est un appel que vous lancez aussi particulièrement?
C'est un appel.
Parce que là, c'est des besoins au long cours.
C'est des besoins au long cours. Et quand on est en période de tension, la tension, elle est encore plus prégnante sur ce type de produits, en fait.
Et en plus, on s'approche de la journée mondiale dédiée à cette maladie des globules rouges. C'est samedi prochain, le 19 juin.
Oui.
Au niveau des maladies, parce qu'il y a bien sûr les besoins de l'urgence, on a l'image terrible des accidents de la route. Là, on imagine qu'il y a besoin d'énormément, on parle de culots de sang.
Oui.
Mais sur les maladies chroniques, ces maladies qui nécessitent du sang toute l'année pour les patients, on peut citer quoi comme maladie?
Alors en fait, comme vous venez de le dire, il y a des situations où les gens perdent des globules rouges parce qu'ils saignent, ils ont des accidents de la route. Et il y a une deuxième catégorie de patients, c'est ceux qui ne peuvent pas produire de globules rouges. Et notamment, c'est des patients que l'on retrouve, sont des patients dont oncohématologie, par exemple, qui ont des leucémies, ou alors des maladies de ce type, mais plus chroniques, par exemple, ce qu'on appelle des syndromes myélodysplasiques. Et c'est des patients qui doivent être transfusés au long cours et qui ont des besoins tous les mois, toutes les six semaines, d'être transfusés.
Alors, c'est important de parler du mode d'emploi, du don du sang, parce qu'on va le voir, il y a différentes raisons qui font que les gens ne donnent pas leur sang. Il y a des peurs qui sont irrationnelles, il y a des peurs qui sont réelles. Et puis, il y a aussi savoir comment ça se passe. Jean-Cy, qui écoute RFI à Kinshasa, explique qu'il a donné son sang lors d'une campagne de dépistage des maladies sexuellement transmissibles en RDC. À cette occasion, il a appris qu'il était donc O négatif. Il y a 2 ans, Jean-Cy a aussi donné du sang pour sa petite sœur qui avait besoin d'être transfusée parce qu'ils étaient compatibles. Et aujourd'hui, il se pose des questions. Je vais vous poser toutes ces questions, professeur Pirenne. D'abord, Jean-Cy voudrait savoir à quelle fréquence est-ce qu'on peut donner son sang?
Alors, les hommes peuvent donner leur sang 6 fois dans l'année. Et les femmes 4 fois, parce que le volume sanguin d'une femme est moins important. Donc Jean-Cy peut donner 6 fois son sang dans l'année.
Et la question qu'il pose dans la foulée, quels sont les risques si on donne son sang plus souvent?
Alors, on ne le laissera pas donner son sang plus souvent, j'espère.
On ne le fait pas quand on veut.
Voilà, simplement, le risque, c'est que lui-même finisse, au bout du compte, par développer une anémie. Donc, ce n'est pas du tout le but recherché.
Un autre auditeur, Amadou, dit « Je suis donneur de sang depuis 2013. Est-ce qu'on peut donner son sang et faire du sport le même jour? C'est très concret.
Alors, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce qu'on perd quand même un petit peu de volume, disons, dans son organisme. Donc, c'est assez déconseillé de faire, c'est même déconseillé de faire du sport le jour même. Il vaut mieux le reporter au lendemain.
Tout à l'heure, vous disiez, on ne vous laissera pas donner votre sang plus de tant de fois par an. C'est bien simple parce qu'il y a un interrogatoire. Il y a des médecins ou des infirmiers qui vont vous poser des questions très concrètes. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette liste de questions?
Alors, sur cette liste prise de questions. L'objectif de ces questions, avant de donner son sang, c'est d'une part de s'assurer que le donneur, s'il donne son sang, ne met pas en péril sa propre santé, et donc s'assurer qu'il n'a pas lui-même une anémie ou autre chose. Et d'autre part, c'est pour s'assurer que le sang que l'on va prélever n'est pas à risque pour le receveur. Et donc, on va demander au donneur s'il s'est trouvé dans des situations où, par exemple, il pouvait transmettre une infection. Pour vous donner un exemple très simple, si un donneur de sang est allé se faire un détartrage dentaire le matin, eh bien, on va lui demander de revenir 3-4 jours plus tard, parce que quand on vous fait un détartrage dentaire, il y a des bactéries qui passent dans le sang et qui peuvent se retrouver dans la poche de sang et ensuite se retrouver chez le patient.
Et tout ça n'est pas éliminé, comme on dit, on avait entendu parler de la technique du chauffage. Tous ces risques sanitaires éventuels ne sont pas éliminés. Il faut qu'il y ait ce questionnaire pour écarter ces risques.
Alors, non, en fait, on ne chauffe pas le sang. Les techniques de diminution des pathogènes se font sur d'autres produits, le plasma, dont on va faire des médicaments. On ne chauffe pas le sang. Donc, il y a des risques qu'on va éliminer, bien sûr, en faisant des analyses. Mais c'est une première barrière, c'est interrogatoire.
Pour éviter justement d'avoir un sang qui pourrait présenter des risques. En termes de durée, professeur Pirenne, donner son sang, ça prend une heure environ, c'est ça ?
Voilà, entre le moment où il y a l'entretien prédon, le moment où on prend le sang, etc., ça dure à peu près une heure. Et on demande ensuite au donneur de rester un petit peu dans l'enceinte de là où il a donné son sang pour se réhydrater et s'assurer qu'il ne va pas faire un malaise.
Et ça veut dire que même les personnes qui ont donné leur sang récemment, on va leur reposer les questions à chaque fois, systématiquement.
À chaque fois, puisque tout peut changer dans la vie, les habitudes, etc., à tout moment. Donc, à chaque fois, tout cela sera reposé et les tests seront toujours réalisés.
Alors, il y a une autre restriction qui peut paraître assez étonnante, mais on peut la citer quand même, ce sont les tatouages. Pourquoi ?
Alors, parce que on ne sait pas si les tatouages ont été faits a priori avec des aiguilles stériles. Voilà. Et donc, on sait que les aiguilles peuvent transmettre des maladies transmissibles par le sang. Et donc, on a journe simplement les donneurs de sang qui disent qu'ils ont été tatoués récemment.
Selon un laps de temps particulier.
Voilà.
Alors on va aborder avec vous, professeur spécialiste de l'hématologie, la nature des composants sanguins, des maladies qui peuvent l'affecter. On va y revenir un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais tout de suite, on va aller à la rencontre de donneurs, nos héros du jour dans Priorité Santé. Un acte solidaire d'émotivation singulière. C'est ce qu'a constaté Ophélie Lassène à la maison du don de Cabanel dans le 15e arrondissement de Paris, centre ouvert à l'année à la collecte du don de sang. Sur place, rencontre avec Marie, Cécile, Frédéric et Joanne.
Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et je suis A+. Alors Cécile, j'ai 45 ans et je suis du groupe A+.
Frédéric, j'ai 62 ans, je suis un jeune retraité, je suis du groupe sanguin B+.
Je m'appelle Joanne, j'ai 25 ans et je suis de groupe B+, je crois.
Alors, dans le circuit, on fait passer un petit anticoagulant. Et donc, par moment, chez certaines personnes qui sont un peu sensibles, ça peut consommer le propre calcium. Donc, on donne du calcium pour pallier au
calcium. On en avait donné une fois.
Voilà, ça arrive des fois.
Est-ce que c'est la première fois que vous donnez votre sang ?
Non, ça doit être la 5e, 6e, je pense. C'est la 2e fois que je donne mon sang.
Je donne soit mon sang, soit mes plaquettes, soit mon plasma depuis maintenant 35 ans au moins.
J'avais donné pas mal de fois mon sang et puis j'ai franchi le pas de donner les plaquettes il y a quelques mois.
Et alors la première fois, ça remonte à quand ?
Ça remonte à 5 ans. C'était dans le cadre d'un stage que je faisais, il y avait un don du sang de l'entreprise entre midi et deux. Voilà. Donc je suis allée avec des collègues. Je pense que je suis dans un groupe sanguin qui est quand même assez courant et on en a toujours un peu besoin. Les stocks sont de temps en temps faibles, il me semble qu'en ce moment ils ne sont pas au top. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Donc tant qu'à faire, voilà.
Septembre l'année dernière, j'ai entendu qu'il y avait des besoins importants, qu'il y avait de moins en moins de collectes à cause du Covid dans les entreprises notamment. Et donc je me suis dit que c'était le bon moment d'y aller. J'avais toujours pensé le faire, j'avais un peu d'appréhension et donc je me suis dit on y va.
Je ne sais pas, à l'époque je ne me suis pas forcément posé de questions, ça me paraissait naturel. Je fais pas mal d'activités sportives, je suis motard, donc je me dis, après tout, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai moi aussi besoin de ces dons, et voilà, dans ces cas-là, j'en serai éternellement reconnaissant aux gens qui ont bien voulu faire don de leur sang dans ces occasions-là.
Ça faisait longtemps qu'on me disait de venir donner mes plaquettes parce que j'en avais beaucoup, et j'ai une amie qui a eu une leucémie et je me suis dit, bon allez, là il faut vraiment que je le fasse, c'est juste une heure et demie d'inconfort et après ça va.
Est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler avec vos proches pour les convaincre de devenir donneurs également ?
J'en ai parlé et en plus mes grands-parents sont présidents d'une amicale du don du sang là où ils habitent, donc généralement on en parle en famille un petit peu, donc pas mal de gens autour de moi ont conscience de l'importance du don.
Là, je viens d'envoyer un petit WhatsApp à des copines en leur disant que je donnais mon sang, qu'il y avait des besoins, voilà, donc il y en a qui iront pas et c'est normal, chacun son choix, et puis d'autres qui me disent t'as raison de nous y faire penser, je vais prendre rendez-vous, voilà. Je suis aussi avec mon mari, mais je crois que les hommes sont plus inquiets peut-être sur ce sujet-là.
Vous avez déjà convaincu des proches de donner également ?
Écoutez, je sais ce que j'ai essayé de faire auprès de mes propres enfants déjà. Mais ils sont pas mal occupés. Voilà, pour le moment, je n'ai pas encore obtenu gain de cause. Mais sinon, dans mon entourage amical, oui, je connais pas mal de personnes qui donnent comme moi. Soit ils le faisaient déjà, soit en ayant parlé, ils l'ont fait de manière tout à fait spontanée.
Et vos enfants, c'est juste le temps qui leur manque ou vous pensez qu'ils ont quelques petites appréhensions, quelques craintes ?
Peut-être ont-ils quelques craintes, j'en sais rien, mais ceci étant, c'est amusant, votre réflexion pourrait relancer le débat avec mes enfants, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je leur en ai pas parlé, donc je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour leur en reparler et les convaincre à nouveau d'aller le faire.
Et est-ce que vous auriez un petit message pour nos auditeurs qui, eux non plus, n'ont pas encore sauté le pas ?
Si l'on peut contribuer à soulager des gens ou sauver des vies, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi, comme on dit. Il faut y aller. Et si, chose très importante, ça ne fait absolument pas mal.
Eh ben, c'est un beau geste et ça prend pas longtemps. Donc si vous sentez de le faire, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pas compliqué.
Merci beaucoup. Puis, pas bon don alors.
Merci.
Reportage d'Ophélie Lassène avec professeur France Pirenne. L'importance, à côté de ses donneurs réguliers, comme Frédéric qu'on a entendu dans le reportage, plus de 30 ans de dons derrière lui, important de voir une nouvelle génération s'engager dans cette démarche. C'est d'ailleurs un petit peu la tonalité cette année pour l'appel à se mobiliser. Pourquoi est-ce qu'il faut des nouveaux donneurs ?
Il faut des nouveaux donneurs, tout simplement parce que les anciens donneurs qui sont fidèles, eh bien, ils vont atteindre la limite d'âge. Hein, et donc, il faut renouveler l'ensemble des donneurs qui viennent donner. Et donc, c'est vrai que d'avoir des jeunes qui commencent à donner leur sang et qui vont continuer à le donner pendant de très longues périodes, eh bien, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça, une espèce de turnover générationnel qui est très important pour le don de sang.
On parlait tout à l'heure du don de sang en entreprise. C'est quelque chose de très important, même si bien sûr, avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu beaucoup moins fréquent qu'auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des collectes directes, on va dire nomades, à l'intérieur des sites, par exemple à l'université ou devant certaines grandes écoles pour que les élèves aient au-delà, bien sûr, des 18 ans requis ?
Oui, bien sûr, il y a des collectes dans les milieux universitaires, il y a des camions qui se déplacent devant les entreprises, etc. Et c'est vrai que, surtout l'année dernière, on a eu des difficultés avec ces collectes, notamment au sein des universitaires, avec le télétravail, moins de monde dans les entreprises. Donc on espère que tout cela va reprendre. Bien sûr, on va vers le donneur aussi. On lui demande, il peut venir dans les maisons du don, mais on va aussi vers le donneur.
Avec les unités mobiles. Témoignage de Kalilou du Bénin sur la page Facebook de l'émission. Il explique avoir donné son sang à deux reprises, mais qu'à la seconde occasion, il a fait un malaise. Alors Kalilou demande pourquoi ce malaise et qu'est-ce qu'il doit manger après avoir donné son sang pour récupérer rapidement. C'est vrai que dans un pays comme la France, c'est proposé sur place, c'est pas forcément le cas partout. Si Kalilou, on va être très concret, hein, doit se faire un petit encas après don du sang, vous lui conseillez quoi ?
Alors en fait, c'est pas tant un encas que de se réhydrater. Il faut qu'il boive et ça c'est très important, surtout dans des contrées où il peut faire éventuellement très chaud et où on se déshydrate plus facilement. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on insiste, c'est la réhydratation. déshydratation. Bon, alors c'est assez fréquent hein, de faire des malaises. C'est peut-être la petite réaction la plus fréquente et ça n'a aucun caractère de gravité. Simplement, il ne faut pas sortir. C'est pour ça aussi qu'on garde les donneurs un petit temps sur place.
En observation.
Parce qu'on n'a pas du tout envie que s'ils font un malaise, ils tombent dehors. Hein, donc on les garde un peu sur place et surtout on fait en sorte qu'ils se réhydratent. C'est ça le plus important.
On dit boire. Plus communément don du sang, mais en fait, on devrait dire don de produit sanguin. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que la nature du produit sanguin s'est déterminée au moment où l'opérateur, je ne sais pas le terme requis, l'opérateur va mettre l'aiguille dans la veine? Est-ce qu'on sait si on va en tirer du plasma, des plaquettes, du sang? Comment ça se passe?
Alors, en fait, il y a deux manières de donner son sang. Hein. Il y a ce qu'on appelle le don de sang total, et on donne une poche de sang, ça va relativement vite, et de cette poche de sang, on va extraire donc sur un plateau de production les éléments dont on a besoin. On va mettre le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Maintenant, on peut donner son sang par une autre technique, enfin son sang, des produits sanguins, comme vous le dites, par une autre technique qui s'appelle l'aphérèse. Et là, le donneur va être branché à un dispositif qui va extraire uniquement le produit dont on va avoir besoin, soit des plaquettes, soit du plasma. Pour un premier don, en général, on fait un don de sang total. Et après, éventuellement, si le donneur est d'accord, on peut l'amener à l'aphérèse, la cytaphérèse, qui dure un petit peu plus longtemps.
Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir être utilisé beaucoup plus rapidement, sans intermédiaire ?
Alors voilà, parce que ça permet d'avoir, par exemple pour les plaquettes, ça permet d'avoir une grosse quantité de plaquettes en une seule fois. Alors que si vous prenez les plaquettes uniquement issues d'un don de sang total, vous devez pouler les plaquettes de plusieurs donneurs pour faire une dose nécessaire au patient. Et puis après, il y a d'autres particularités.
Les produits sanguins, est-ce que leur usage est déterminé par la nature de la maladie ?
Bien sûr, leur usage est déterminé par la nature de la maladie. Si vous manquez de globules rouges, on ne va vous apporter que des globules rouges. Si vous manquez de plaquettes et qu'il y a des saignements, on ne va vous apporter que des plaquettes.
Bien Tout sûr. À l'heure, on a parlé des conditions. On a parlé, par exemple, des personnes qui étaient exclues du don. Il faut aussi donner peut-être des petites précisions très simples hein, en termes d'âge, de poids. On a parlé de la différence de la fréquence du fait que l'on soit un homme ou une femme. Et déjà, en termes de poids, est-ce qu'il y a des restrictions ?
Oui, alors il faut faire plus de 50 kilos pour donner son sang. Donc ça, c'est la limite.
Et en termes d'âge ?
Alors, en termes d'âge, on peut donner son sang de 18 à 65 ans.
Et là, ça peut concerner pas mal d'auditeurs qui nous écoutent. Quand on arrive en France pour donner son sang et quand on a voyagé en zone tropicale, il peut y avoir des restrictions, professeur.
Oui, alors, il peut y avoir des restrictions et c'est pour n'importe quel voyageur. Hein. Il y a un ajournement souvent de 4 mois, c'est-à-dire qu'on demande au donneur de revenir 4 mois plus tard, notamment pour s'assurer qu'il n'a pas contracté le paludisme, par
Donc
exemple.
Donc des zones paludées.
Des zones impaludées.
Impaludées. Oui. On va poursuivre notre échange, on va aller au Burkina Faso, au Bénin, et puis en RDC aussi. Ce sera juste après ce titre de Prince, Raspberry Beret.
So look here, I put her on the back of my bike and we went.
Priorité santé sur RFI, journée mondiale des donneurs de sang. Nous sommes toujours en compagnie du professeur France Pirenne, directrice médicale de l'établissement français du sang de l'hôpital Henri Mondor, professeur d'hématologie et transfusion à l'université Paris-Est Créteil. Et professeur, si vous le voulez bien, sans plus tarder, on va donner la parole aux auditeurs de l'émission Témoignages pour comprendre comment ça se passe dans d'autres contextes.
RFI à Bukavu, 98 FM.
Avec votre témoignage, docteur Justin, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes dans le sud Kivu, territoire de Calais, vous exercez dans un hôpital de campagne. Alors docteur Justin, s'il vous plaît, expliquez-nous comment ça se passe chez vous quand un patient a besoin de sang.
Bien, ici comme ça se passe, c'est un peu compliqué. Que les besoins sont énormes.
On vous entend très très mal, docteur. Docteur Justin, docteur, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi de vous interrompre, c'est parce que là, en fait, les autres personnes qui sont derrière leur poste ne vont pas comprendre. Écartez-vous peut-être un petit peu de l'appareil, parlez bien fort. J'espère qu'on va vous entendre. Donc, expliquez-nous comment ça se passe dans votre hôpital de campagne du Sud Kivu quand on veut donner son sang.
Bien, ici chez nous, il y a juste une association qui s'occupe de la collecte de sang. Une association familiale pratique. Mais cette association n'arrive pas vraiment à couvrir tous les besoins.
Tous les besoins ne sont pas couverts, ça veut dire, docteur, par exemple, dans votre hôpital, vous avez quel stock de sang? D'habitude, vous pouvez tenir plusieurs jours. Comment est-ce que ça se passe?
Plusieurs jours, c'est peut-être trop parce que c'est rare qu'on ait 10 poches de sang à la même minute.
Donc, en cas d'urgence, comment est-ce que vous faites?
En cas d'urgence, c'est alors que notre banque n'est pas souvent approvisionnée. Nous sommes souvent confrontés à recourir soit à la communauté, aux membres de la famille même, et parfois même au personnel de santé.
Donc, ça veut dire que des fois, il y a des infirmières qui sont obligées de donner leur sang pour les patients. Comment est-ce que les gens réagissent, par exemple, dans la famille, quand on dit, ben là, il va falloir opérer le petit, il va falloir du sang. Est-ce que, madame, vous pouvez donner votre sang, monsieur? Comment réagissent les gens?
Le conseil, c'est vraiment une situation difficile, parce que c'est pas tout le monde qui accepte de donner son sang.
Et est-ce que vous voulez lancer un appel, justement, vous le dites, hein, pour un hôpital comme le vôtre, seulement 10 poches de sang, pour bien comprendre, professeur Pirenne, hein, quand il y a un accident ou une opération, voire même une situation qui peut vraiment se passer en Afrique, des hémorragies au cours de l'accouchement, on a besoin de beaucoup de culots de sang, on a besoin de beaucoup de poches.
Oui, ça dépend du saignement, mais ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 10
Ça veut dire que pour une seule personne, on peut utiliser tout le stock de cet hôpital.
Bien sûr.
Alors, docteur Justin, un appel aux auditeurs qui sont à l'écoute, hein, dans la région du Kivu, dans l'est de la RDC, pour leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider.
Oui, je les appelle surtout à faire preuve de solidarité et de compassion. Donner vraiment librement le sang, donner du sang, c'est donner la vie. Et les besoins sont énormes, mais on a et comme ressource, et c'est ressource nulle part à part chez eux. Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités qui sont les leurs pour pouvoir nous approvisionner en ça. Parce que de toute façon, on donne le sang aujourd'hui, mais demain, on peut le recevoir.
Donc, je vais me refaire la porte-parole du message que vous avez bien fait passer parce que la ligne n'était vraiment pas d'excellente qualité. Donc, donner du sang, c'est donner la vie. Et c'est vrai que aujourd'hui on donne, demain, on peut en avoir besoin. C'est simple comme message, mais c'est efficace. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on ne peut pas stocker certains produits sanguins très souvent, surtout dans des conditions, on va dire, un petit peu difficiles sur le plan sanitaire. C'est important de pouvoir donner son sang. Et encore une fois, professeur France Pirenne. On le redit tout à l'heure dans le témoignage, dans le reportage qu'on avait, c'était dit, ça ne fait pas mal, c'est indolore. Les infirmières qui mettent les aiguilles sont propres, on n'attrape pas de maladie et c'est quelque chose qui ne fait pas mal.
Tout à fait, c'est vraiment comme une petite prise de sang classique et donc il n'y a aucune raison, les infirmières sont bien habituées à prendre du sang et ça ne fait pas mal.
Merci beaucoup, docteur Justin. Merci pour votre témoignage. Bon courage hein, dans ce territoire de Calais, dans le sud Kivu. En tout cas, professeur France Pirenne, on va en avoir l'illustration dans quelques instants avec le Burkina Faso que l'on tente de rejoindre. On voit bien les écarts importants de situation d'une région à l'autre de la planète.
Tout à fait, puisque les systèmes de santé, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et donc, nous venons d'avoir un exemple donc avec notre collègue là à l'instant. Dans certaines régions, eh bien, on est obligé parfois de venir avec son donneur pour que le patient puisse bénéficier d'une transfusion, ce qui n'est pas le cas en France. Et nous avons pour cela, évidemment, beaucoup de chance.
Et il y a un autre principe en France qui n'est pas retrouvé partout dans le monde, c'est la gratuité du don du sang dans certains pays, y compris des pays développés.
Oui.
Je pense aux États-Unis par exemple.
Oui.
Le don du sang est rémunéré en France. Oui. La gratuité,
c'est un inamovible.
Principe au niveau de tous les dons
tous les
issus
dons. Du
corps humain.
Exactement. Donc le don, quel qu'il soit, est gratuit, bénévole, bien sûr, et anonyme.
Et c'est important, ça a de tout temps été comme ça ?
Oui, ça a de tout temps été comme ça, et ce sont des principes éthiques auxquels la France ne compte pas renoncer, en fait.
Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, sur la question de la drépanocytose. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des pathologies sur lesquelles on pouvait avoir besoin de produits sanguins plus que d'autres, particulièrement sur celui-là, on le sait, hein, maladie génétique qui affecte les globules rouges, qui peut conduire à plusieurs types de problèmes, dont l'anémie. Dans quel cas est-ce que le médecin qui suit au long cours son patient drépanocytaire peut décider d'une transfusion ?
Alors en fait, ce qui caractérise surtout en dehors de l'anémie la drépanocytose, c'est l'existence de ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire que les globules rouges en fait vont aller se coincer dans les petits vaisseaux, ce qui va donner donc des syndromes très douloureux, mais aussi être assez délétère pour l'ensemble des organes. Et dans ces situations, eh bien, le médecin peut préconiser une transfusion sanguine à type d'échange transfusionnel. C'est-à-dire qu'on va retirer les globules rouges malades et on va apporter des globules rouges sains. Et donc, vraiment, ces indications transfusionnelles, elles varient vraiment d'un patient à l'autre. C'est une maladie qui a une symptomatologie extrêmement variable en fonction des patients.
Et on dit que les patients drépanocytaires sont parfois anémiés. Pourquoi ?
Alors oui, alors parce que ces globules rouges qui ont une hémoglobine anormale, eh bien, ont deux caractéristiques. Et une des caractéristiques, c'est qu'ils sont fragiles. Et donc, ils se cassent dans la circulation. Et donc, du coup, il y en a moins. Et donc, ce sont des patients qui sont souvent en anémie chronique. Mais qui le supportent en général, si ça ne descend pas trop bas.
Et justement, est-ce qu'il y a des signes autres que l'examen sanguin pour alerter sur ce risque d'anémie chez la personne drépanocytaire ?
Alors en fait, si une personne drépanocytaire tout d'un coup se sent extrêmement fatiguée, plus fatiguée que d'habitude, eh bien il est possible que son taux d'hémoglobine soit descendu parce que, je ne sais pas, peut-être une infection intercurrente ou toute autre raison. Et dans ces cas-là, on fait une analyse du sang pour voir où la personne en est sur le taux de son hémoglobine. On a des signes cliniques, bien sûr, qui peuvent attirer l'attention.
Alors, pour ne rien cacher aux auditeurs qui nous écoutent, on essaie en vain de joindre votre confrère, professeur, le docteur Yacouba Nebier, à Ouagadougou. Hélas, pour l'instant, la ligne ne passe pas, mais on a un petit peu plus de chance avec le Bénin. Si bien qu'on va donner la parole à un auditeur, c'est Gérard qui est en ligne d'Abomey-Calavi. Gérard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous teniez à témoigner dans Priorité Santé. Vous avez donné votre sang à plusieurs occasions. Racontez-nous, Gérard.
Oui, en fait, c'est en 2019, quand j'étais au Burkina. J'avais une amie avec qui je sortais. Et voilà, sa sœur vient de la Côte d'Ivoire étant souffrante. Allô ?
Oui, je suis toujours là.
Oui, sa sœur vient de la Côte d'Ivoire et souffrante. Et après les analyses, elle a besoin de sang. Voilà, et bon, déjà dans l'enfance, j'étais souffrant et je connaissais déjà mon statut sanguin. Elle est venue, elle m'a expliqué le cas. Et c'était avec vraiment beaucoup de plaisir de faire cette aide-là d'abord parce que je voulais prouver à ma chérie que je l'aimais.
Pour vous, c'était aussi un acte d'amour de donner votre sang.
Si.
Ben pour le coup, c'est vraiment faire don de soi. Justement, quand vous sortez de cette séance où on a prélevé votre sang pour quelqu'un de la famille de votre ami, comment est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Moi, j'étais toujours tout simplement content et soulagé. Je me suis dit, ben, ça pouvait être moi et voilà quoi.
Autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui donnent aussi leur sang, Gérard ?
Oui, vous savez, en Afrique, c'est un peu quelque chose de tabou. Les gens ne comprennent pas d'abord l'histoire de donner du sang. Ils se disent que, bon, voilà comment quelqu'un va donner son sang à un autre humain. Vous voyez, il y a encore ce mythe-là en Afrique qu'on se dit, ben, déjà, ici même au Bénin, on se dit, je ne mange même pas d'abord très bien, comment vais-je encore donner mon sang à quelqu'un? Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Et aussi, dans des religions, on se dit... on ne peut pas donner du sang, donc c'est un peu ça qui fait que les gens sont encore réticents par rapport au don du sang.
Donc il y a une question de croyance. Un dernier point, Gérard. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, d'après vous, autour de vous, dans le système de santé ou dans ce qui se passe dans les hôpitaux pour inciter davantage les gens à donner leur sang ?
On fait une très bonne campagne, une bonne sensibilisation. Voilà, et faire comprendre le bienfait de donner du sang, parce qu'en donnant du sang, on sauve une vie. Et non seulement ça, il faut qu'on se dise qu'on peut aussi avoir besoin. Et aussi dire aux dirigeants sanitaires, il faut que le don soit franchement gratuit. Parce que moi, personnellement, en tant que donneur, quand je le donne gratuitement, vous savez, quand quelqu'un est nécessiteux, quand il va à l'hôpital, il est obligé de payer les poches de sang. Ou à défaut, il est obligé de ramener quelqu'un pour pouvoir qu'on fasse l'échange.
C'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. En même temps, il faut prélever le sang, donc il faut aussi payer l'infirmière ou l'agent de santé qui va le faire. Il faut le conserver, mais c'est vrai que certains pays... On vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Gérard. Très bonne journée au Bénin. Certains pays comme le vôtre, docteur Yacouba Nebi, on est heureux de vous entendre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, docteur, vous êtes médecin hémobiologiste, spécialiste de médecine transfusionnelle au Centre national de transfusion sanguine de Ouaga. Dans un pays comme le Burkina Faso, quand on a besoin de sang, on ne demande pas, généralement, officiellement, de payer.
Ah oui, absolument. On ne demande pas de payer. Et c'est une option qui a été résolument prise par les autorités de santé il y a quelques années. Et donc, le patient a accès gratuitement à tous les produits sanguins. En tout cas, ce n'est pas lui qui paye.
Dans un pays comme le Burkina, docteur, combien de structures, combien de lieux pour donner le sang ?
Alors, combien de lieux pour donner le sang ? Il y a 9 grandes structures de collecte de sang dans le réparti dans le pays qu'on a essayé de quadriller. Et ces 9 structures sont toutes sous la responsabilité unique du Centre national de transfusion. Et disons que ces 9 structures sont parfois complémentées dans leur action lorsqu'il y a par exemple un déficit très sérieux par les banques de sang hospitalières qui collectent aussi de temps en temps.
Est-ce que tous les besoins sont couverts par le don du sang ou on doit aussi procéder, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'appel de la famille, de la générosité de la communauté pour avoir un acte solidaire de don du sang, souvent intrafamilial ?
Oui, merci, c'est une question très importante. À tout moment, on doit toujours faire appel à la solidarité. Parce que dans notre pays, on peut dire que les dons de sang ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des besoins. Ça au moins c'est clair, parce que même quand on projette sur le plan théorique, et ce qu'il faut pour couvrir l'ensemble de notre population, c'est au moins 200 000 dons, alors qu'aujourd'hui, les structures mises ensemble n'arrivent pas à collecter plus de 130 000 par an. Donc, vous voyez qu'il y a un gap, et donc, voilà.
On voit bien ce fossé, mais est-ce que pour autant, vous auriez les moyens au Burkina de conserver ce sang dans de bonnes conditions ? Parce que, par exemple, on a un auditeur, Franklin, au Cameroun, qui dit qu'il est technicien de laboratoire d'analyse. Dans la structure sanitaire où il exerce, comme dans beaucoup d'autres dans son pays, le Cameroun, il trouve que la chaîne du froid pour la conservation des poches du sang n'est pas toujours adéquate. Comment ça se passe dans un pays comme le Burkina ? On sait que les conditions sont difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Ok, les conditions sont difficiles, certes, mais je pense que le Burkina, on va dire, c'est un pays qui a beaucoup de chance, en tout cas en la matière. Quand je dis chance, ça veut dire qu'on s'est donné les moyens de pouvoir assurer, en tout cas, la conservation des produits sanguins. À ce niveau, la chaîne de froid est quand même disponible, en tout cas dans les 9 structures officiellement couvertes par le centre de transfusion. Et il y y a des équipements, il y a des relais pour assurer la continuité de l'électricité. Et donc, ça ne pose pas de problème. Par contre, lorsque un établissement de un centre hospitalier est obligé de collecter, bon, il y a des moments où eux, ils sont en difficulté pour pouvoir conserver, effectivement, parce que leur chaîne de froid est moins performante que celle des structures du CNTS. Mais on va dire, bon, c'est quand même des cas qui sont un peu plus rares, puisque même les hôpitaux ont des backups énergétiques, des relais.
Des relais de coupure d'électricité, notamment de délestage. Docteur Nébier, une dernière question, il nous reste une minute. Un message à faire passer à ceux qui donnent leur sang une fois par an, ce qui est déjà très bien. Peut-être dire aux gens qu'ils peuvent revenir une deuxième fois ?
Ah oui, ça c'est absolument important, parce que on peut revenir pas 6 fois ou 4 fois comme en France. Nous, on a adopté que un homme, un sujet masculin peut revenir 4 fois par an, et les femmes, les sujets de sexe féminin, 3 fois par an. Et donc, vraiment, c'est le lieu d'exhorter tous les donneurs qui ont déjà franchi le pas de revenir, parce qu'on ne peut pas s'arrêter de donner, puisque le besoin est permanent. Et donc, eux qui ont déjà franchi le pas, ils doivent vraiment continuer de nous appuyer à ce niveau-là.
Et le message est bien passé. Le message est bien passé. Hein. C'est vraiment la mobilisation aujourd'hui dans cette émission. On insiste là-dessus. Vous qui donnez, continuez. Puis parlez-en autour de vous pour inciter d'autres personnes autour de vous à donner. C'est essentiel. Docteur Yacouba Nébier, merci beaucoup. Bonne journée à Ouagadougou. On vous remercie aussi beaucoup, hein, professeur France Pirenne, pour votre éclairage sur le don du sang. Une auditrice de Dakar, Yacine, aura le mot de la fin. Je lis son message. Pour ceux qui le peuvent, donner son sang est, je pense, une obligation morale, car les services de santé se retrouvent en difficulté lorsqu'ils n'ont pas de sang à transfuser pour les personnes qui en ont bien besoin. Yacine est bien placée pour donner ce conseil, puisqu'elle explique qu'elle a reçu du sang pour la première fois dans les années 80 suite à une hémorragie.
Priorité santé sur RFI.
On le disait, journée mondiale qui se succède hier, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, maladie génétique qui concerne une personne sur 1000 dans certaines régions d'Afrique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'un des risques majeurs pour les personnes atteintes, au-delà des souffrances, des risques qui peuvent être associés à la stigmatisation, c'est le cancer de la peau, fragilité extrême sur le plan dermatologique, ce qui nécessite un suivi, une protection, des vêtements couvrants, des lunettes filtrantes, mais aussi, quand on le peut, un écran solaire. À ce propos, une formule de crème de protection est désormais à la disposition de la communauté internationale, grâce à la Fondation Pierre Fabre. Pour en parler avec nous, Lala Aïcha Diakité. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos au Mali. Ces crèmes solaires, hein, c'est très important pour protéger les peaux dépigmentées par l'albinisme, pour éviter de développer des tumeurs de la peau. Et ces tumeurs, eh bien, elles menacent même les enfants.
Oui, tout à fait. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que l'utilisation de ces crèmes solaires sont d'une importance capitale. Comme vous le savez, le soleil est l'ennemi numéro un de la personne atteinte d'albinisme. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons bien voulu mettre en place, en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre et l'hôpital de dermatologie de Bamako, un programme de prévention contre le cancer qui comprend, entre autres, la production locale de crème solaire.
Ça veut dire qu'il y a des laboratoires de fabrication sur place. Vous fabriquez aussi bien la crème, vous mettez en flacon, en tube. Comment ça se passe ?
Ce que nous faisons, déjà, c'est la fondation qui finance la production de crèmes. Et l'hôpital de dermatologie abrite le laboratoire. Donc, nous avons 4 personnes atteintes d'albinisme qui s'occupent de la production. Nous commandons des ingrédients. La crème est adaptée. Pourquoi ? Parce que celle qu'on trouve dans les pharmacies servent aux personnes qui veulent se bronzer. Et les crèmes que nous produisons sont des crèmes qui sont composées à base de vaseline pour hydrater la peau, mélangée à des UVB et à des UVA pour la protection contre les rayons solaires. Et ces crèmes sont d'autant plus adaptées qu'elles sont gratuites, donc accessibles à tous.
Votre association les distribue aux personnes qui viennent vous voir justement et qui ont besoin. Ça veut dire, comment est organisé ce réseau de distribution?
Nous avons plusieurs canaux de distribution. Déjà, on les distribue mensuellement au niveau de notre association. Et du fait que nous fournissions les autres associations en charge des personnes atteintes d'albinisme au Mali, elles en distribuent également à leur niveau. Nous acheminons des crèmes dans les régions du Mali et également dans d'autres pays avoisinants tels que le Niger, le Burkina et la Mauritanie.
Quelque chose de très important, Lala Aïcha Diakité, c'est bien de sensibiliser les parents, les mamans, expliquer pourquoi il faut protéger les enfants du soleil. Ça passe par la crème, mais ça passe aussi par certains équipements.
Oui, en plus de la crème, il faut éviter le temps que possible de s'exposer au soleil. Il faut porter des habits à manches longues, mais surtout du coton. Il faut porter régulièrement des casquettes avec bordure et aussi des verres correcteurs teintés.
Et ça veut dire aussi qu'au-delà justement de cette protection, il faut montrer la peau des enfants régulièrement quand c'est possible à un médecin.
Oui, ce que nous faisons, la sensibilisation, nous le faisons non seulement à notre niveau, mais au niveau d'autres associations. Donc on essaie de diriger les membres le plus possible vers l'hôpital de dermatologie. Pour faire une consultation tous les trimestres ou tous les 6 mois. Et l'hôpital également dispose de pommades solaires pour distribuer après chaque consultation. C'est une façon de les fidéliser dans le centre de santé.
Évidemment, quand on reçoit sa crème régulièrement, quand on vient voir le médecin, on a envie de revenir pour protéger la famille. On comprend très bien toutes ces explications. On vous remercie beaucoup, Lala Aïcha Diakité. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Kaledek, Didier Bleu et avec nous aujourd'hui Stephen Elsley. Demain dans Priorité Santé, nous allons parler de la sous-nutrition et de l'assistance alimentaire à l'occasion de la Journée mondiale contre la faim dans le contexte des crises sanitaires localement, crise sécuritaire venue aggraver la situation des populations vulnérables. Nous irons notamment à Madagascar et en Syrie. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.